de ville.
Merci beaucoup, Julie. Notre prochaine invitée est en ligne. On va la rejoindre à l'instant. Elle est copropriétaire du Miller Zoo à Frampton, en Beauce. Elle est accompagnée de son copain, Clifford Miller. Et c'est eux qui sont en vedette dans la série Un zoo pas comme les autres. On va aller les rejoindre tout de suite à Frampton, en Beauce. Bonjour, Émilie. Bonjour, Clifford.
Bonjour.
On vient de passer une fin de semaine dans la tempête. Comment ça s'est passé pour vous au Miller Zoo?
Ben en fait, une fin de semaine, la tempête, c'est pas une tempête dommage, c'est telle que telle. C'est plus le froid qu'il y a eu combiné avec ça qui nous a obligés, nous, à prendre la décision de fermer, en fait. On a fermé parce qu'on est ouvert les week-ends pendant la saison hivernale. Oui. On a pris la décision de fermer à cause des froids extrêmes. En fait, dans ce temps-là, faut comprendre que c'est sûr que les animaux qui sont adaptés à l'extérieur sont adaptés. Même s'il fait froid, ils ont des abris. Fait qu'ils sont capables de supporter le poids. C'est juste que le va-et-vient des visiteurs, nos animaux sont quand même... ils vont aller vers les gens, ils vont aller les voir sur le bord des clôtures. Mm-hmm. Fait que nous, on ne voulait pas les forcer à toujours sortir. Souvent, ils vont se tenir dans leur abri. Quand il va faire froid comme ça avec du vent, ils vont se tenir dans leur abri. Puis, veut pas, c'est plus fort que eux. S'il y a des visiteurs, ils vont venir les voir. Puis aussi, nos bâtiments exotiques, on a deux pavillons exotiques plus une ferme à l'intérieur. Le va-et-vient dans les portes fait en sorte que le courant d'air, ça fait qu'on, pour le bien de nos animaux, on a préféré fermer nos portes en fin de semaine. Mais une tempête de neige, ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, on attend que ça tombe. Aujourd'hui, on a passé la journée à faire.
Et opération pelletage aujourd'hui. Okay.
Vous aviez pas le choix, mais par exemple, vos lions actuellement, est-ce qu'ils sont à l'extérieur ou est-ce qu'ils ont déjà réintégré leur enclos extérieur?
Ben, en fait, nous, comment ça fonctionne avec les gros félins comme ça exotiques, en fait, ils ont accès à l'extérieur le jour, mais ils ont toujours, dans le fond, l'accès à l'intérieur-extérieur en journée. Mais dans les journées, ça a été une autre chose, parce que c'est des animaux que les visiteurs aiment beaucoup venir. Oui. C'est sûr qu'on les voira pas. Ils vont pratiquement pas sortir dans des grands froids comme ça. Fait que c'est une autre raison aussi qui nous a poussé à repousser aussi pour les visiteurs une autre journée.
Mais alors qu'on se parle présentement, les félins sont confinés à l'intérieur. Le soir, ils sont à l'intérieur, à eau chaude. La porte est fermée. Ça va aller demain matin avec accès à leur parc extérieur. Ouais.
Pour ceux et celles qui sont à l'écoute et qui ne connaissent pas encore le Miller Zoo, en quoi est-ce que ça se distingue des autres zoos plus traditionnels?
C'est sûr. Ce qui nous distingue, c'est que nous, dans le fond, on est une petite institution, en fait. Nous, on a commencé juste nous deux. Dans le fond, le couple sur une terre familiale, on a parti vraiment de zéro. Donc, on n'est pas un organisme, on n'est pas un comité. On est vraiment un zoo qui est parti. Dans le fond, c'est un refuge qu'on a parti dans la maison venir avec pour accueillir des animaux dans le besoin suite à un chevreuil qu'on avait trouvé blessé. Okay. Puis, on a fait un an centre de réhabilitation, ce que les gens souvent appellent refuge. Après un an, on a décidé de prendre un permis de centre d'observation parce qu'on voulait pas avoir des visites pour couvrir les coûts parce qu'on était en train de se ruiner à faire de la réhabilitation qu'on remet. Puis nous autres, on voulait pas embarquer dans le pattern de dire bon, ok, on va vivre sur des dons, tout ça. Ça demandait beaucoup de temps, donc on a choisi plutôt d'adapter les sentiers pour pouvoir recevoir du public. Et on a rouvert la première année, puis c'était justement des animaux en réhabilitation, des animaux du Québec, militaires. On a rouvert, puis on n'avait pas un gros budget de pub, on a commencé vraiment de rien. Et puis là, on a quand même beaucoup de succès. Les gens, ils aimaient notre cause. Fait que même si on était tout petit dans le fond du Ranch Frampton, ben les gens, ils aimaient ça quand même. Puis l'engouement s'est fait sentir rapidement, puis on a expansionné. Puis qu'est-ce qui a fait aussi qu'on s'appelait le Miller Zoo même avant d'être ouvert au public, même avant d'avoir le permis d'observation, parce que c'est un peu une joke familiale qu'on se faisait dire. Ils nous disaient... de transiter avec un zoo, ici, on va appeler ça une Miller Zoo, tu sais. Puis là, on se faisait souvent contacter pour des animaux exotiques aussi. Okay. Parce que là, on avait le nom zoo. Mais là, on disait, non, dans le fond, on n'est pas un zoo pour vrai, là, tu sais, c'est comme un zoo, parce que, genre, c'est comme, grâce à ça qu'on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'animaux exotiques à placer aussi dans le milieu. Donc, après 3 ans, on a décidé de faire la demande pour le permis de jardin zoologique. Puis, on l'a eu, ça a super bien été. En plus, on avait fait 3 ans en observation, 1 an en refuge. Les agents, on avait quand même leur appui aussi. C'est un peu ça, le cheminement raconté vite. Souvent, les gens, ils trouvent que ça nous diffère un petit peu des autres.
Puis, nous, on va toujours accepter, peu importe l'animal, on va toujours l'accepter. Regardez, prenez par exemple, on a accueilli des babouins, en fait, des babouins qui venaient. Nous, on était abordés des babouins en fin de vie. C'est des babouins que beaucoup de cirque, beaucoup de jardins zoologiques ne voulaient pas avoir parce qu'on prend des babouins que si on prend Tony, va peut-être vivre entre 5 et 8 ans chez nous. Tu sais, c'est pas tout le monde qui veut adapter un parc pour un animal qui va vivre, qui va rester peu aussi longtemps à l'endroit. Puis un ours noir à 3 pattes. Fait, je pense que ça nous différencie de beaucoup de jardins zoologiques qui probablement n'auraient jamais accepté de prendre ces animaux.
Vous disiez que ça a commencé avec un chevreuil blessé d'abord et avant tout. Qu'est-ce que vous aviez comme qualification ou comme job avant de lancer ce zoo-là?
Ben en fait, Cliff, il travaillait sur un terrain de golf. Moi, j'avais un restaurant, dans le fond, un construit à Fenton, c'est qu'on n'était pas dans le domaine. Moi, par contre, j'ai toujours été passionnée des animaux, j'avais lu beaucoup, j'avais commencé à prendre des formations aussi en toilettage, en comportement animal, donc c'était quelque chose qui me passionnait. Puis on avait comme une petite fermette aussi qu'on avait commencé à faire parce que moi, j'avais des chevaux et tout ça, puis mon objectif, c'est d'avoir ma petite écurie, ma fermette en arrière de la maison, okay. Donc on était déjà sur le projet, fait qu'on travaillait pas là-dedans, mais on était déjà les deux passionnés par le milieu des animaux, là.
Puis là, on est rendu à près de 200 animaux, 70 espèces différentes. Je comprends que ça s'est fait au fil du temps, au fil des années, mais chaque fois qu'une nouvelle espèce arrive, c'est complètement nouveau pour vous. Vous devez apprendre à prendre soin de ces animaux-là?
En fait, c'est nouveau pour... Tu vas parler à n'importe quel jardin zoologique. Chaque espèce qui rentre, c'est nouveau pour eux aussi. En fait, nous, oui, c'est nouveau. C'est nouveau de l'espèce, mais c'est nouveau l'individu, parce qu'on aurait... là, on a des lions... ils rentrent d'autres lions demain matin, puis c'est complètement différent. On repart à zéro, là, parce qu'on n'a pas les mêmes lions. Puis on travaille vraiment avec, tu sais, le meilleur exemple, c'est qu'on a 5 ours, puis on a 5 individus, 5 comportements complètement, complètement différents. Okay. Ça fait quand même bien qu'on aurait, tu sais, avoir eu, comment dire, un pseudo, une formation là-dedans, ça t'amène pas à comprendre l'individu que tu as devant toi.
Puis c'est aussi, là où c'est plus de recherche, par exemple, c'est mettons, tu as une nouvelle espèce, bon, ben, c'est quoi ça a besoin comme environnement? C'est quoi que ça va rechercher? Ça va chercher les montées, les tanières? Ça, c'est quoi les habitudes de vie de cet animal-là? C'est quoi qu'il a besoin, justement, pour être bien? Là, à ce niveau-là, c'est d'aller voir, bon, ben, qu'est-ce qui fait cet animal-là à l'état sauvage? Dans les autres parcs biologiques, qu'est-ce avec ces animaux-là, ça fait que ça demande tout le temps d'être en recherche parce que en plus de connaître ton individu, ben faut que tu quand même que tu connaisses son espèce. Puis nous aussi, ce qui est particulier, c'est que nous, des fois, vu qu'on fait de la réhabilitation pour qu'on accueille des animaux dans le besoin, ben des fois on a 3 jours pour prendre l'animal. Des fois, on se le fait offrir puis c'est tout de suite ou pas pantoute.
Okay.
Donc il faut se revirer de bord assez vite. Donc, faut avoir des bons contacts, faut être capable de se revirer, trouver de l'information assez rapidement tout le temps.
Question niaiseuse, on achète ça où? Un lion? C'est qui vos fournisseurs d'animaux, tu sais?
En fait, ils viennent de d'autres jardins zoologiques du Québec, de l'Ontario, des États-Unis. C'est des zoos qui ferment. Faut dire qu'en Ontario, il y a beaucoup de jardins zoologiques privés, puis beaucoup de compétition. Puis il y a beaucoup que l'Ontario est en train de resserrer sa réglementation qui fait en sorte qu'il y en a beaucoup qui vont fermer, qui vont devoir relocaliser certains animaux. Mais en fait, c'est un petit milieu, c'est des appels qu'on reçoit comme ça. Mm-hmm. C'est constamment c'est toujours la même chose. C'est des. Puis en Ontario, faut dire que l'Ontario est un petit peu en retard sur la réglementation versus le Québec, comme nous, il y a 30 ans, si on veut, là. Même peut-être plus, là, peut-être 35, 40 ans. Quand les gens pouvaient aller en animalerie ou aller à l'animalerie de la faune domestique, c'est le meilleur exemple. Vous pourriez rentrer là et acheter des animaux exotiques, acheter un lion. J'ai un visiteur qui est venu au zoo qui avait acheté un lion comme cadeau de Noël à sa blonde.
Au pet shop.
À l'animalerie de la faune domestique. C'est simple, tu peux acheter ça. Ça fait que l'Ontario est encore, pas partout, mais certaines villes ont mis leur réglementation. Mais vous pouvez avoir encore des animaux exotiques chez vous à la maison.
Mm-hmm. Puis ce qu'on dit aussi aux gens, là, ce qu'on s'en rend compte, on l'a vu un peu dans la première émission, c'est fait emmener un Cayman, une TV. Vous resteriez vraiment surpris de savoir le nombre de monde, même au Québec, qui ont des animaux sauvages en garde illégale, puis je parle pas nécessairement rien que d'un écureuil, là. Je pense qu'il y a des espèces qu'on ferait vraiment un saut de voir. Je comprends pas comment ces animaux, là, on peut se ramasser. Tu sais, ces gens-là, on fait pour se ramasser avec ces animaux-là. C'est une réalité aussi qui est un peu méconnue du public aussi.
Il y a aussi des naissances chez vous. Le 27 novembre dernier, il y a votre femelle ours blanc qui a donné naissance à un ourson. Puis sur Twitter, vous disiez que ça allait prendre 3 mois avant qu'on puisse le voir comme visiteur au zoo. Comment se portent le petit et la mère présentement?
Là, c'est Mélex
Saint-Félicien,
là.
OK. Ça, c'est juste Saint-Félicien. Ils en ont eu deux même. Leurs deux ours polaires, leurs deux femelles ont eu chacun un ourson back-to-back. Ça va être à eux à demander ça. Là.
OK. Mais quand vous avez des petits, est-ce que ça arrive tout de même qu'il y a des naissances chez vous? Puis êtes-vous capable d'approcher les petits quand les femelles sont en train de les protéger?
En fait, nous, ça arrive qu'on a des naissances. Ça dépend. On n'a pas beaucoup parce que justement, nous, vu qu'on a des fois des animaux en fin de vie, des animaux moins génétiques, c'est pas tout le temps. Mais regarde aussi, là, cette année, dans nos naissances, on a eu des porc-épics africains. La mère était super sociale quand on l'a eu. C'était vraiment affectueuse. Mais quand elle a eu ses bébés, c'était autre chose. Fait que des fois, t'as des changements de comportement. On a eu un bébé Samiri aussi. La mère était très sociable. Elle venait nous le montrer. Ça, c'est vraiment encore là du cas par cas.
Est-ce que ça vous intimide encore à l'occasion d'interagir avec, je dis vos ours parce qu'ils sont chez vous, vos ours, vos loups, vos lions, vos tigres? Est-ce que vous prenez encore autant de précautions qu'auparavant ou est-ce que comme c'est rendu une partie de votre quotidien, sans dire que vous relâchez votre garde, vous trouvez ça un peu plus normal de les fréquenter?
Oui, ben c'est sûr parce que nous autres aussi, on est toujours là, on est là tout le temps, on vit en plein, on a la maison en plein milieu du zoo. Ça fait que tes animaux, tu les vois plus que ta famille, tu les vois plus que tes amis, tu les vois tout le temps. Fait que c'est sûr et certain que, oui, en quelque part, tu oublies des fois que c'est des prédateurs, mais tu sais, faut quand même que tu sois, comme t'expliquais,
faut toujours être vigilant.
Rester vigilant, là, faut pas l'oublier. Puis c'est sûr que oui, ça, c'est un enjeu important qu'il faut jamais oublier, puis que oui, en effet, on a tendance à oublier.
Puis arrête, tu sais, on a juste regardé dans les médias dans les derniers mois, dans les dernières années, tous les accidents qu'il y a eu avec les grands félins. Mm-hmm. Ça fait qu'il n'y a vraiment pas de chance à prendre avec eux.
L'émission de télé est extrêmement populaire. Est-ce que vous vous attendez à un raz-de-marée de visiteurs l'été prochain?
Oui, oui. Oui, on se prépare. Ça fait depuis l'automne, dans le fond, que l'équipe de tournage avec qui on a tourné nous a dit « Préparez-vous », parce qu'on n'était pas tant connus, parce que, tu sais, je veux dire, en étant plus petit, on n'avait pas un gros budget de publicité. Il y avait encore du monde de la région qui ne savait pas qu'on existait. Puis après la première soirée, on a tombé avec 1 million de personnes qui nous connaissaient. Fait que là, ça change en maudit un beat de vie un peu, si tu veux.
Mais on est en train de préparer les travaux, l'agrandissement de stationnement, les sentiers, parce que il y a certains sentiers qui n'ont pas été modifiés depuis la première année.
OK.
Puis là, on est obligé de faire de l'élargissement. Ça fait qu'on
travaille là-dessus. Ça ne stresse pas trop parce qu'il faut dire qu'on a quand même connu une grosse expansion assez vite au niveau de l'achalandage. Fait qu'on est habitué de se revirer de bord, mais là, je pense que ça va être un autre défi. Là.
Et là, s'il y a des curieux et des curieuses qui nous écoutent, qui voudraient y aller dès cet hiver, les dates sont modifiées, en fait. C'est la fin de semaine. C'est quoi la différence entre une visite estivale puis une visite hivernale au-delà de la neige?
C'est deux mondes totalement différents parce que tu as les animaux qui sont en dedans. Donc, tu vois vraiment les quartiers intérieurs, les habitats, comment qu'on adapte justement les bâtiments pour que donner un aspect aussi plus naturel pour reproduire quand même les habitats, même si les animaux sont à l'intérieur. Fait que souvent, les gens voient une plus grande proximité. C'est plus mollo aussi l'hiver qu'en été. Donc, les gens, ça fait des visites qui sont un peu plus intimes, si on peut dire. L'été, c'est sûr que ce qui est intéressant l'été, tu as des tables de pique-nique, il fait beau, il fait chaud, mm-hmm. C'est festif. C'est deux manches, je te dirais. Puis justement, le zoo ne se ressemble pas pratiquement. Tu vois aussi mieux les animaux, contrairement à ce que les gens pensent des fois, on va voir les animaux l'hiver, ben, sont plus actifs parce que justement, ils ne sont pas écrasés par la chaleur. Puis ceux qui ont, mettons, qui dorment à l'intérieur le soir, mais qui ont un accès en journée, ben, c'est sûr que quand ils sortent jouer dans la neige, ils sont contents, ça bouge. Fait que ce que les gens aiment, qui revient l'hiver, c'est qui démarre, c'est que les gens disent on voit bien les animaux, c'est le fun, ça, ils bougent.
Les animaux arctiques, loups arctiques, tous les loups, les gris, les renards, sont parfois plus beaux.
Ah oui, c'est un terrain de jeu pour eux en plus.
Oui, exactement.
Merci Émilie, merci Clifford d'avoir pris quelques minutes pour nous cet après-midi. Je vous laisse retourner à l'épelleté, puis on suit la série dans les prochains jours. À bientôt.
Merci beaucoup.
Émilie Ferland et Clifford Miller, ils sont les copropriétaires du Miller Zoo à Frampton, c'est en Beauce. Pour en savoir plus sur le Miller Zoo, c'est millerzoo.ca. Le retour d'Éric Duhem.